Lorsqu'on fait des études de linguistique, le plus souvent, on se base sur des... bien sûr, on regarde des bases de données, et les bases de données, dans la plus grande majorité des cas, sont constituées par des textes littéraires. Pour vous dire que, si vous regardez le corpus préétabli franc-texte, il y a un seul texte juridique, qui sont les actes de Ferry III, duc de Lorraine. Par contre, si on regarde une autre base de données dont les médiévistes connaissent bien, qui est la base du français médiéval, là, on a 107 textes à l'heure actuelle, dans la version 2019, et que sur les 107 textes, il y a seulement 7 qui sont des textes juridiques. Ceci étant, ce sont des textes juridiques très hétérogènes, à mon avis, puisqu'il y a des textes légaux, bien sûr, mais 3. Il y a 3 chartes. Il y a, après, le journal de Nicolas de Bailly, qui était greffier au Parlement de Paris. Bref, ce sont des textes aussi qui ne viennent pas de la même zone dialectale. Alors qu'avec le sujet Condé, on a quand même une chose formidable, c'est que c'est basé uniquement sur des textes qui tournent autour de la coutume de Normandie. Donc nous avons ce qu'on appelle le facteur diatopique par excellence. Ensuite, il y a le facteur diastratique, parce que ce sont des textes juridiques, peu importe si on fait la différence entre légaux et jurisprudentiels. Et ensuite, une troisième possibilité qui est absolument remarquable pour nous, diachroniciens, c'est qu'on a la possibilité de les contrôler, de contrôler ces textes dans les éditions avec des manuscrits, sachant que aussi certains manuscrits ne sont pas transcrits encore. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc c'est la manne céleste pour la diachronie, puisqu'on peut contrôler, on peut véritablement se plonger dans ce qu'était la source. Alors que quand on travaille sur des éditions critiques, on sait très bien que ces éditions sont le résultat du travail de quelqu'un qui s'appelle un éditeur critique, et cet éditeur critique, avec la meilleure des volontés qu'il ait, eh bien, il retouche les textes parce qu'il y a des abréviations qu'il faut résoudre. C'est ce que disaient Christine, Mathieu et Pierre. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions quant à la ponctuation, le fait qu'a évoqué tout à l'heure Mathieu. Et donc, on a des textes qu'on doit prendre avec des pincettes si vraiment on veut donner l'effet linguistique par rapport à une période qu'on connaît encore mal, même s'il y a beaucoup d'études. Alors, je vais commencer. Voilà le sujet, Mathieu l'a présenté. Je vais vous parler de 3 choses qui correspondent à ma dernière recherche, qui sont la coordination, la complémentation, c'est-à-dire la jonction de certaines subordonnées par rapport à la principale, et ensuite un sujet que j'ai abordé grâce à Pierre, qui m'a proposé de travailler avec lui avant sur d'autres textes juridiques, pas forcément les textes de la coutume de Normandie. Et puis je vais vous donner quelques glanures sur des faits de déclinaison et autres, si le temps le permet, encore une fois, et si vous ne décidez pas de m'arrêter avant. Alors voilà quels sont les textes que j'ai étudiés. Donc je vais vous présenter ici des textes qui vont du 13e au 15e siècle. Parmi les textes étudiés du 13e siècle, donc, j'ai analysé le manuscrit 1743 qui contient, dans la présentation qui est incluse dans le projet Condé, on commence au feuillet 193 et on arrive jusqu'à 306. Alors, dans ce nombre de feuillets ou de pages, comme vous voulez, il y a quelque chose qui a été déjà fait par cet auteur absolument remarquable qui s'appelle Ange Ignace Marmier et qui a transcrit une partie donc, de ce manuscrit, c'est-à-dire qu'il s'arrête au feuillet 256 et qu'il a appelé « Établissement et coutumes assises et arrêts de l'échiquier de Normandie au XIIIe siècle ». Alors ensuite, j'ai consulté le manuscrit qui a été mentionné par Christine, qui est le Harvard du Law School, avec cette cote-là, qui contient 280 feuillets, mais comme ils sont recto verso, ça fait à peu près cette somme-là. J'ai pas pu résister à vous montrer la page de garde du premier manuscrit, donc celui sur lequel a travaillé Marmier, qui est contenu dans les archives départementales ici. Voilà le début du Harvard qui sert également pour la fiche qui est sur la porte actuellement. On voit très bien la lecture, c'est du gothique, c'est extrêmement facile à lire pour ce que notre intention est à éclairer au mieux que nous pourrons en cette œuvre, les droits et les établissements de Normandie, par quoi, etc., etc. Alors, pour le XIVe siècle, j'ai étudié un très beau manuscrit, de nouveau des archives départementales, avec cette code 28F2, qui contient 462 feuillets. Je ne suis pas arrivée au bout, j'ai regardé donc des parties, et ensuite je me suis un peu fixée sur une partie de ce manuscrit qui contient quelque chose qu'on appelle la charte aux Normands de Louis le Hutin, qui a fait cette charte parce que désormais le duché de Normandie revenait à la France. Ensuite, le manuscrit 5961 de la Bibliothèque nationale de France, qui contient du feuillet 1 à 68 le grand coutumier de Normandie, signé dans le colophon par un scribe qui se nomme Thomas, qui contient également la charte aux Normands, c'est-à-dire une version de la précédente. Ensuite, un texte que Pierre m'a proposé de regarder, Instruction et enseignement, style de procédé d'une justice seigneuriale normande. Alors voilà le début du manuscrit d'ici, très beau manuscrit aussi, lisible, le duc de Normandie ou le prince doit ou est celui qui tient la seigneurie de quoi le roi, etc. de France. Et voilà le début de la charte aux Normands dans ce même manuscrit, Louis par la grâce de Dieu. Roi de France et de Navarre, à tout nom fait aux justiciers, salut et paix. Alors pour le 15e siècle, pas encore au 15e, donc le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France qui est très beau. Très beau, très visible aussi. Alors là, c'est la fin du premier feuillet. D'habitude, les linguistes font autre chose. Ils vous donnent vraiment le début parce qu'il y a des lettres historiées au début. Mais là, je me suis permis de vous donner la fin parce que c'est un manuscrit très beau pour que vous puissiez voir les dessins. Et puis ici, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, probablement c'est le nom de l'acquéreur. Qui s'appellerait Jacques Auguste Thuani, quelque chose dans le style. Et puis pour le 15e siècle, malheureusement, je me suis arrêtée à celui-là seulement, c'est-à-dire que je n'ai pas pris en compte le manuscrit Christine parce que je savais que tu travaillais sur l'autre. Donc ça, c'est encore une fois un manuscrit des archives départementales d'ici avec la cote J117, très beau aussi, qui commence par la charte du roi Louis octroyé aux gens du pays de Normandie. Alors, je voulais donc vous dire que j'ai étudié ces textes parce que je trouve que finalement, à la lumière de ce corpus, on peut reprendre toutes nos études d'une certaine façon en poursuivant trois objectifs. Le premier objectif serait de vérifier est-ce que la présentation dans ces textes correspond à ce que nous disent les manuels d'ancien français et de moyen français, c'est-à-dire est-ce qu'il y a sur le plan des connaissances des apports considérables, des différences ou pas entre ce que nous disent les manuels et ce que nous donnent ces textes. Le deuxième objectif était de me servir de ces textes si spécifiques, si particuliers, relevant d'un domaine ou d'un genre particulier pour mesurer les modalités du changement. On constate très souvent que pour un changement qui est normalement décrit comme relevant de la période du XIVe siècle, on peut avoir des rythmes et des vitesses différentes dans l'évolution. Donc ce que je voulais voir, c'était est-ce que les textes juridiques sont d'une certaine façon antérieurs ou postérieurs par rapport aux modalités de changement qui sont définies dans les manuels de cette période de la langue. Et enfin, un troisième objectif, qui est cette fois-ci un peu plus modeste, c'est parce qu'en travaillant sur les manuscrits, on peut contribuer à la lecture des énoncés, dans le sens, donc, je le répète encore une fois, mentionné tout à l'heure par Mathieu, ces textes sont peu ponctués ou pas ponctués, et d'une certaine façon, l'interprétation d'un énoncé peut être totalement différente si on prend en compte ce que dit le manuscrit, et ensuite si on prend en compte notre perception moderne qui va nous obliger à segmenter les textes de manière très différente. Alors, le premier sujet correspond à quelque chose sur quoi j'ai travaillé récemment. Avec Claire Bayou-Montferrand, nous sommes penchés sur le terme « et ». Aussi banal qu'il puisse vous paraître, hein, c'est un terme extrêmement compliqué et presque difficile à cerner. Et ceci en raison du fait qu'il opère sur trois plans. Il opère sur le plan référentiel, c'est-à-dire le plan du contenu. À ce moment-là, il fonctionne comme ce que les manuels définissent comme étant une conjonction de coordination. Ensuite, sur le plan épistémique, et à ce moment-là, il fonctionne comme un connecteur. Et troisièmement, sur le plan discursif, où il peut agir sur la façon d'interpréter l'énoncé, la façon d'introduire l'énoncé. Il peut nous permettre, d'une part, de participer à l'énoncé, et d'autre part, à le délimiter. C'est ce qu'on appelle donc un marqueur discursif dans la littérature actuelle. Alors, voici trois sets d'exemples qui me permettront, j'espère, d'illustrer ces trois cas de figure. Dans le premier cas, vous avez tout ce qui relève pour nous de la coordination, où on a vraiment un « et » qui est coordonnant, avec bien sûr des cas de coordination tout à fait stricts, comme « cinq garçons et filles » ou « Albe, le vœu et Rome », et puis une coordination que je nommerai, ou que nous avons nommée avec Claire Badiou, une coordination lâche, dans le cas « Pierre aime le cinéma » et « Marie l'opéra », ou dans les cas des binômes synonymiques « Mon collègue et ami ». Alors, pourquoi parle-t-on de coordination dans ces cas-là? Parce que l'opérateur, je ne vais pas utiliser des termes trop linguistiques, et sert à adjoindre. C'est son rôle principal, donc il ajoute une information à une autre information. Cette information est telle que les deux éléments qui sont coordonnés par les soins de « et » sont réversibles. Donc on peut dire parfaitement cinq garçons et filles, tout comme on peut dire cinq filles et garçons. Dans le deuxième cas, elle est un peu plus large, c'est un vers de Corneille. Albe et Rome le veulent, c'est ce que les spécialistes du préclassique et du classique nomment la coordination différée. Ensuite, on a le cas de Pierre aime le cinéma et Marie l'opéra, ce que les générativistes mettent sous l'enseigne du gapping, c'est-à-dire des structures qui sont elliptiques. Pierre aime le cinéma et Marie aime l'opéra, vous ne voyez plus le verbe être, mais il y a une coordination donc, qui relie les deux énoncés. En fin de compte, le dernier qui est le fameux binôme synonymique, on peut parfaitement dire mon collègue, ami, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui distingue les trois? L'opération de base est celle d'ajout, mais les termes sont réversibles. Et ensuite, et le plus souvent n'est pas omissible. Il est le plus souvent obligatoire, même si vous pouvez me dire que dans le deuxième cas, Pierre aime le cinéma, on peut mettre une virgule, on peut faire une juxtaposition et dire Marie aime l'opéra. N'empêche que cette opération, elle se fait à la surface, mais elle est sous-jacente. D'un point de vue coordination pure. Dans le deuxième cas, il y a donc des exemples qui illustrent ce qu'on appellerait, nous, un connecteur. Alors, dans le cas du connecteur, on a deux éléments qui sont reliés, mais le premier conditionne le deuxième. C'est-à-dire qu'il y a un rapport logique entre le premier et le second, il l'appelle en quelque sorte, et dans ce cas-là, vous avez rencontré certainement des cas comme le premier, elle est laide et riche. Dans le cas de cet énoncé, on peut gloser « et » par « mais », puisque le point de départ est que quand on est laid, eh bien, il n'y a que des malheurs qui arrivent par la suite, alors que la richesse n'en relève pas d'un. Cela apparaît très souvent, et ceci dès la période médiévale, dans des énoncés comme « venez après moi et j'irai après ». Alors, c'est les mêmes structures, « sors et je te dirai »,« viens et je te dirai » en français moderne. Dans les cas d'expression parenthétique, entre eux, ils se disent, et ils ont le droit de le dire sous-entendu, que celui qui croit une femme est fou. Et enfin, les cas de ce qu'on appelle les prédications satellites, traditionnellement, Anna et ses temps durant les années 60, et ce, dans un bled au pied du dent de midi, où on a non seulement le rôle de « et », mais également, il faudrait prendre en compte pour l'analyse de l'énoncé, la présence du démonstratif « ce ». Et donc, premier niveau coordonnant, deuxième niveau connecteur, puisqu'on passe au niveau épistémique, et enfin, on arrive au niveau discursif avec des exemples comme cela. Le bon roi Louis en a eu pitié, et il voulait le retenir par grande amitié, et Seigneur Henri de Pise lui a promis qu'il l'aidera en tout. Un exemple similaire, cette fois-ci, donc tout à fait moderne, puisque vous voyez que c'est Mauriac, et nous apercevions enfin en bas de la colline, etc. Deuxième énoncé, et elle arrivait dans son sillage, et notre dure journée, etc., etc. C'est ce que nous faisons, en tout cas ce que je fais lorsque je raconte une histoire. Il m'arrive très souvent d'enchaîner les propos par un « et » qui va servir simplement à attirer l'attention et qui va me permettre éventuellement de relancer mon énonciation. C'est pour ça que dans la littérature, le plus souvent, ces cas-là sont définis par le terme qui appartient à Guy Serba « et » de relance. Donc ici, il est plutôt marqueur discursif. Dans la littérature, sur les marqueurs discursifs, on en connaît deux types, ceux qui sont donc des opérateurs textuels, comme cela, et puis un autre marqueur discursif qui apparaît ici, qui est illustré dans cette phrase, ce vers de la chanson de Roland, « Et Durandal, comme est belle, et claire, et blanche ». Durandal était, pour les étudiants présents, le nom de l'épée. Et ici, on a un « et » qui opère comme l'interjection « et ». On a donc deux types de marqueurs discursifs, le « et » de relance et le « et » interjectif. Alors, celui qui m'intéresse le plus et pour lequel je voulais vous parler, dont je voulais vous parler aujourd'hui, pour lequel je voulais donc apporter des éléments supplémentaires, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que ce marqueur discursif est considéré comme un trait d'oralité, comme une marque d'oralité. Il appartient à ce qu'on appelle l'oral représenté pour ce qui est de la littérature médiévale. Alors, il a un usage qui est très prononcé dans la littérature médiévale, mais après, il décline de sorte que, selon ma collègue Claire Badiou-Montferrand, on le voit sensiblement disparaître ou en tout cas décliner dès le XVIIe siècle. Et de sorte qu'on le sous-estime à l'heure actuelle. Alors, ce qui nous a incité en même temps à regarder plus attentivement la situation avec ce marqueur discursif, c'est le fait qu'on continue à le rencontrer en français moderne, notamment quand on introduit un discours direct, mais aussi dans des propositions comme « plus il mange et plus il maigrit » ou bien dans des constructions de prédication satellite. Alors, sa disparition progressive ou son déclin progressif a été le plus souvent traité dans la littérature comme une conséquence du grand mouvement d'intégration syntaxique qui aurait caractérisé le français depuis, dans une période allant du français préclassique jusqu'au français moderne. Sauf que nous avons élaboré, Claire et moi, une autre hypothèse pour expliquer cette baisse, c'est qu'on y voit plutôt une conséquence de l'autonomisation de l'écrit par rapport à l'oral, quelque chose qui est lié à la révolution des imprimés et surtout au progrès de ce qu'on appelle la lecture silencieuse. Donc, ce qui m'a poussée à regarder si ce « et » était présent dans les textes juridiques médiévaux présentés tout à l'heure, c'est d'une part de voir est-ce qu'il existe dans ces textes, et deuxièmement, pour défendre une thèse que nous avons avancée avec Pierre dans nos études précédentes, à savoir que les textes de cette époque-là, aussi juridiques qu'ils soient, sont loin de la formalisation et de la spécialisation que l'on attribue à ces textes à la période moderne. Actuellement, on dirait, si on suit par exemple des ouvrages comme celui de Gérard Cornu, qui a fait un ouvrage magnifique sur la linguistique de la justice, des textes juridiques, ce sont des textes actuellement extrêmement contraints. Or, il nous semblait, à l'époque où on a commencé, peut-être que tu as changé d'avis entre-temps, Pierre, que ce sont des textes qui sont plus proches de l'oral, d'une certaine façon, que les textes littéraires qui obéissent à d'autres contraintes, notamment les contraintes de la fiction. Et donc, qu'est-ce que j'ai commencé à regarder ? J'ai regardé comment était présenté ce « et », comment est présenté « et » en général dans ces textes. Alors, ça a été dit par mes collègues, avant de peut-être même d'introduire ce que j'ai mis en exergue en haut, on a soit la possibilité de le voir écrit comme un « et » seul, soit un « et » avec ET, soit par la note tyrrhénienne que j'ai mal représentée ici, notamment la note se présente avec la forme d'un 7, mais ayant du mal à inclure ce caractère ici, je le présente sous la forme d'un Z. Donc lorsque vous voyez ce Z, il s'agit d'une abréviation. Cette abréviation, bien sûr, elle est résolue par les éditeurs modernes, de sorte que certaines le transcrivent carrément par E, ce qui brouille encore une fois les pistes, et ET, ça brouille une fois de plus les pistes, puisqu'on aura du mal à savoir et à détecter de quel E il s'agit. Alors, dans le tout premier manuscrit consulté, celui sur lequel a travaillé Marnier, on voit deux choses. On voit soit la note tyrrhénienne, c'est-à-dire l'abréviation de ce E, ou alors on voit un « et » seul. Et Marnier est extrêmement scrupuleux, c'est un juriste, mais qui travaille comme les meilleurs éditeurs de textes actuels, puisqu'il suit à la lettre ce que donne le manuscrit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur la façon dont il ponctue, mais en ce qui concerne le « et », il est vraiment extrêmement scrupuleux. Donc il va résoudre le « et » tyrrhénien par un EET, alors qu'il garde l'autre hein, qui est transcrit et seul. Et donc, selon mes recherches, pour avoir étudié tout le manuscrit, il me semble que lorsqu'on a la note tyrrhénienne, c'est-à-dire ce que Marnier transcrit par E, on a essentiellement de la coordination, alors que le E seul est mobilisé pour indiquer la connexion et le marqueur discursif. Alors voilà un exemple du manuscrit qui est dédié à ceux qui prennent la fuite, où le « et » note ici l'opposition. Alors vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, puisque dans ce cas-là, il introduit un argument qui est contraire au premier. Et l'opération de base, c'est-à-dire l'adjonction, elle est toujours présente, mais il y a un effet logique qui permet de l'interpréter comme autre chose qu'une simple coordination, mais plutôt comme un connecteur. Par contre, les « et » qui suivent après vont servir à conjoindre, c'est-à-dire à adjoindre dans le sens pur du terme, puisqu'on a ici « par » et « autre », et ensuite on a l'adjonction de deux propositions au subjonctif, « qu'il les est, qu'il les porte », et à la fin on a de nouveau « les assises, les foires et les marchés ». Je vous propose ma traduction. Si celui qui a commis un meurtre peut obtenir la réconciliation des amis de ceux qu'il a tués, cette réconciliation ne compte pas s'il n'a pas le pardon du duc. Mais s'il a pardon de part et d'autre, hein, qu'il ait les lettres du duc qui contiennent son pardon, qu'il les porte scellées, c'est-à-dire à poser au cou, à son cou, un an et un jour, pendant un an et un jour, de sorte qu'il soit vu aux assises, aux foires et aux marchés du pays. Alors, en guise de preuve, voici le manuscrit, c'est ici la période transcrite, et s'il, etc. Et s'il y est l'être, le duc, etc. etc. Alors, le voilà, là. Alors, est tyrrhénien, un genre de 7, oui, là aussi. Là aussi. 7 ans et un jour. Alors, de même, dans un passage suivant, toujours dans le même texte, alors le texte, bien sûr, dans le manuscrit, vous avez vu, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'alinéa. C'est moi qui les ai rajoutés parce que je me disais que comme ça, je permettais éventuellement à mes auditeurs de voir un petit peu, de suivre la logique de ce que je présente. Donc tout ça n'est pas du tout à la ligne, il n'y a pas d'alinéa dans le manuscrit. Seulement, la présentation, encore une fois, elle servait d'une certaine façon mes objectifs. Alors, traduction que je vous propose. « Les comtes, les barons et tous les hommes sont tenus par leur serment à respecter la justice du duc et la légalité. Et si un homme est en fuite pour un crime, et s'il est appelé à trois assemblées des juridictions mixtes à venir à l'assise et au procès pour que la justice du pays soit appliquée, et s'il n'ose pas s'y rendre, première conséquence, que ses biens soient saisis et soient rendus à la justice, et son nom soit inscrit au registre du duc. Et deuxième conséquence, et que sa maison soit brûlée si elle est située en campagne ou si elle est en bourg ou dans la cité, qu'elle soit démolie et transportée hors et brûlée à midi. L'on fait cela afin que tous voient la justice légale du duc et qu'ils aient peur d'encourir un tel danger ou un tel péril. Alors, le premier est selon moi un marqueur discursif parce qu'il suit une annonce qui est un principe, il va introduire par la suite donc les conséquences. L'apodose commence donc après, protase, apodose commence après cette première introduction. Là, on a des coordinations puisque ce sont les conséquences de la peine qu'il va encourir. Troisième marqueur discursif ici, puisqu'il apporte une relance par rapport à la deuxième conséquence qu'il va encourir. Donc, une fois regardé comme ça, vous pouvez me dire, oui, mais cette présentation, elle est subjective d'une certaine façon. La chose qui me permet de dire que, j'accepte bien sûr des critiques, mais la chose qui me permet de dire que c'est vraiment un marqueur discursif, c'est qu'on peut le supprimer, celui-là, et qu'on ne perdra rien par rapport au sens de l'ensemble. Alors, les autres textes et manuscrits analysés confirment plus ou moins cette tendance. Alors, dans le Harvard 91, et écrit en lettres, apparaît le plus souvent après un pied de mouche. C'est avec ceci que je présente les pieds de mouche. Il apparaît très rarement à l'intérieur du texte, hein, où l'on trouve essentiellement des aides. S'il apparaît après un pied de mouche, ça veut dire qu'il apparaît à un moment où on introduit un nouveau paragraphe. Ce nouveau paragraphe n'est pas obligatoirement inclus au précédent sous forme d'adjonction. Il peut vraiment être autonome et commencer par pour ce que l'on doit savoir que justice, etc., etc. Elle peut être faite en trois manières, soit donc on confisque les biens, soit on confisque le fieu, ou soit on incarcère la personne qui a commis la faute. Alors, la même, alors voilà la photo du manuscrit pour preuve et pour ce que le pied de mouche que j'ai essayé de présenter vaguement tout à l'heure, il voit le et écrit en toutes lettres. Même chose dans un manuscrit du XIVe siècle, et va apparaître ici après un pied de mouche. Il sert à relancer les propos, mais le plus souvent il apparaît après la marque de nouveau paragraphe. Voilà la transcription. En là, j'essaierai par le commun, etc. J'ajoute un nouveau argument et si je ne puis tout faire, je ferai une petite chose de sorte que mon travail soit éclairé, etc., etc. Et après, que des coordinations qui servent à adjoindre des éléments au premier. Voilà, j'essaierai pour le commun profit, attraper, etc. Et si, de nouveau ici. En toutes lettres. Alors, l'exploitation de ces marqueurs discursifs me semble aller en crescendo d'une certaine façon, puisque dans le manuscrit du 15e que j'ai étudié, qui commence par la charte du roi Louis octroyée aux gens du pays de Normandie, je vois encore un effet supplémentaire à cette argumentation apportée par le marqueur discursif. Alors, on a presque l'impression, mais là, encore une fois, je peux être critiquée de subjectivisme exacerbé, Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Alors, il me semble voir dans ce manuscrit quelque chose lié à l'usage du et, où on pourrait admettre dans la langue moderne qu'il soit utilisé avec des adverbiaux de surenchère du style et puis, et de surcroît, et en plus, etc. Alors, est-ce que ici, le scribe aurait voulu dire par la grâce de Dieu, roi de France, et de plus, et en plus, roi, et de surcroît, roi de Navarre? Après, si on poursuit à tous nos faits ou à nos justiciers, salut et paix, coordination normale, puisque c'est la formule de salut. Nous avons reçu la grave complainte des barons, des chevaliers et de tous les autres nobles et soumis. Bon, là, les nobles s'arrêtent là, et ensuite on a « et du menu peuple de notre duché de Normandie, contenant que… » etc., etc. Alors, de quoi se plaignent-ils que beaucoup de préjudices leur avaient été faits, et en plus des injustices, alors les nouveautés est un terme spécifique juridique qui n'a rien à voir avec une nouveauté, c'est vraiment la sanction suprême qui donc, est décliné ici sous forme de taille, subvention, imposition diverse contre la coutume du pays et contre les droits et les franchises, etc., etc. Et là, de nouveau, on aurait un marqueur discursif si on suit cette logique, puisque les choses qui pourraient apparaître sous forme de graves préjudices ici à leur héritiers ou arts et à leurs successeurs, coordination normale, héritiers et successeurs, mais en plus qui pourrait être, mais en plus pourrait être engendré des préjudices infinis, pourquoi ils nous ont supplié humblement de faire donc cette charte aux Normands. Alors voilà la comparaison de maintenant ici de la même charte, mais dans un autre manuscrit. Un manuscrit antérieur qui ne va pas se servir de toutes ces argumentations, de tous ces marqueurs discursifs. On ne le voit plus apparaître, hein. On le voit juste ici, une fois vers la fin. Mais tout le reste est coordonné. C'est-à-dire, dans tous les cas précédents, on a l'ajout qui prime, on n'a pas de différenciation dans la façon dont on interprète ces énoncés. Alors, maintenant, deuxième étude qui portait sur la complémentation. En fait, il s'agit d'un phénomène qui est connu si on feuillette les pages des manuels d'ancien français, puisque les manuels nous parlent d'une alternance entre « que » et « ce que », une alternance qui est visible essentiellement dans le cas des complétives. Et comme premier exemple, premier set d'exemples, la complétive dite directe qui alterne entre une présentation quand il vit que le roi Jean son père fut mort, voilà, avec ce que, ou alors se dit le roi que sa guerre eut fini, le roi dit que sa guerre est terminée, et quand messire Hider se vit que croyère n'y volait, et quand monseigneur Hider vit que la prière ne valait rien, etc. Donc pourquoi trois exemples? Parce que on a des « ce que » qui peuvent introduire donc une complétive, et le « ce » et le « que » ne sont pas forcément conjoints. On le voit ici dans l'exemple de la chanson de Roland, où ils sont loin l'un de l'autre, c'est-à-dire ce qu'on appellerait éventuellement un marqueur disjoint. Alors, le même cas de figure se produit aussi avec les complétives indirectes. La dame moult s'est jouie de ce qu'elle amenait le lion, la dame se réjouit beaucoup de ce qu'elle amenait le lion et le chevalier. Alors la première dame c'est Ludine, la deuxième dame c'est la servante de Ludine qui amène le lion et le chevalier au lion, qui après va devenir son mari, peu importe. Dans le deuxième cas, elle s'émerveilla de ce que le traître lui avait laissé son cheval. Il s'étonna que le traître avait laissé son cheval. Là, vous avez deux « ce que » qui sont conjoints. Alors, petite parenthèse ici, si on réfléchit par rapport à ce qui se passe dans la langue moderne, on peut parfaitement dire « je me réjouis que tu sois là » et « je me réjouis de ce que tu sois là ». Donc, on aurait peut-être un effet de continuation par rapport à la configuration médiévale. Le troisième set d'exemples illustre quelque chose qu'on appelle la complétive directe complément du nom, qui est en fait la complétive et à ce moment-là argument nominal d'une certaine façon. Actuellement, dans la langue moderne, elle existe, mais le plus souvent, ce qui représenterait ce que, c'est ce que Georges Kleber appelle un sommital, c'est-à-dire ça se traduit par le mot fait. À l'époque, 13e, 14e siècle, ce mot fait, le nom fait, n'est pas utilisé encore dans ces textes, et donc je traduirai, mais le fait qu'il se déguisant en semblance de nouveau chevalier m'a enlevé sa reconnaissance, m'a empêché de le reconnaître, mais que j'ai laissé ma chair, mais le fait que j'ai laissé ma chair dévorée par des lions, je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant, c'est en réponse de quelqu'un qui dit au chevalier, mais est-ce que c'est vrai que vous avez été mangé par un lion? Et il répond, mais non, je n'ai pas souvenir de ça. Et ici, dernier exemple que j'ai ajouté parce que ce et que sont une fois de plus disjoints, mais le fait qu'il a dit qu'elle n'était pas vierge, je pense ici dans ce texte, et non pas jeune fille, l'en a fait éloigner. Alors, donc, les manuels de langue médiévale d'ancien français signalent ces alternances en proposant, je le dirai tout à l'heure, une explication très particulière. Sauf qu'en poussant les recherches, j'ai trouvé que la même alternance, elle était visible également dans le cas des subordonnées relatives périphrastiques. Il voulait savoir ce que celui-ci faisait. Nous ne voulons pas défaire ce que firent nos aînés et ce que Dieu m'a prêté est désormais perdu. Donc toujours que, ce que, conjoint et ce et que qui sont disjoints. Et de même, dans un autre cas de relatives qui actuellement sont étudiés par Annie Kouyoum-Kouyan et qui les appelle des pseudo-périphrastiques, on a au Moyen-Âge de nouveau ce que et puis que seul. Ils chevauchèrent directement droit vers Rome, ce qu'ils purent faire très rapidement, chose qu'ils purent faire très rapidement. Où là, la reine Esther a prié le roi Assuère à dîner et pour m'honorer, etc., etc., elle m'a invité avec le roi, moi seule et personne d'autre, ce que je considère comme un grand honneur. Alors, c'est relatif périphrastique juste de mots parce que l'étiquette n'est pas tout à fait encore suffisamment connue ou pas tout à fait connue ou pas suffisamment connue, je ne sais pas comment il faut le formuler. En tout cas, on les appelle des pseudo-périphrastiques parce que le plus souvent, il y a un « ce » qui sert à reprendre tout l'énoncé précédent et non pas comme dans le cas des périphrastiques purs où vous avez une autre fonctionnalité par rapport à ce. Et puis j'ai trouvé aussi la même alternance dans les circonstanciels, à savoir qu'on peut avoir avant que et on peut avoir avant ce que. Et puis là j'ai arrêté, mais je peux vous dire aussi que je l'ai trouvé dans les incises, dans les incidentes et dans beaucoup d'autres cas. Alors, qu'est-ce qui est dit par rapport à cette alternance? Les manuels disent que dans cette alternance, on a tout simplement un « ce » qui sert comme un objet et que introduit également l'objet dans la complétive. Donc, on aurait d'une certaine façon deux compléments d'objet direct, c'est-à-dire un redoublement de l'objet. Ce qui me paraissait très difficile à admettre pour un état de langue où le sujet est omis. Donc, je ne voyais pas comment on pouvait avoir une réduplication de l'objet alors qu'on a en parallèle ou en contrepartie l'omission du sujet. Donc, j'ai cherché d'autres arguments. J'ai étudié beaucoup de textes, j'ai essayé de cibler quand est-ce que ça se produit. La majorité des textes qui attestent l'alternance sont des textes en vers. Cela ne concerne qu'une époque très bien délimitée, c'est-à-dire qu'on le voit essentiellement dans la chanson de Roland et 50 ans plus tard, on ne les voit plus pour ce qui est de la complétive. Hein, je parle de la complétive directe. Ensuite, j'ai essayé de voir quelle était la fonction de ce, est-ce que c'était vraiment un objet, ce qui, j'ai pas de réponse véritablement, puisqu'on peut partir sur une analyse, je dis ceci, que demain il fera beau. Donc on pourrait éventuellement admettre ça. Et puis finalement, j'ai essayé de voir aussi sur le plan de la structure référentielle, est-ce que cela renvoyait, lorsqu'on avait une introduction par ce que, est-ce qu'il y avait une co-référence par rapport à la première partie de la phrase ou pas. Et n'ayant pas trouvé de preuves suffisamment déterminantes, je me suis penchée vers la situation du latin pour revenir sur un cas qui est bien décrit dans les ouvrages sur le latin, à savoir que dans la latinité tardive, on observe un double marqueur, c'est-à-dire une association entre un indéterminant, dans notre cas c'est ce, et un relatif, le que vous voyez tout à l'heure, qui servait à introduire les complétives, mais qui servait également à introduire les relatives, toutes sortes d'ailleurs de relatives. Donc, je pense qu'il s'agit, compte tenu de la durée très faible de l'existence de ce tour, qu'il s'agit tout simplement d'un calque du latin qui après aurait été éventuellement abandonné en vertu de la progression des dépendances, de l'expression des dépendances en ancien français. Donc j'ai cherché, si je peux aller maintenant au but, j'ai cherché si on avait des complétives avec ce que, et je n'ai trouvé aucune dans les six textes que j'ai étudiés, absolument aucune. Donc là, je ne les traduis pas, mais vous pouvez deviner. Roger dit que, je vous ordonne que, etc. Il faut comprendre que, avec un impersonnel devant. Je demande à ceux qui liront ou observeront cette œuvre que, etc., etc. Ce qui m'a, d'une certaine façon, conforté dans mes analyses précédentes, à savoir que s'il n'apparaît pas dans ces textes-là, c'est que probablement le calque se serait poursuivi dans les textes très littéraires parce que ça arrangeait le vers et parce que ça convenait à la décompte syllabique, mais qu'on ne le voit pas apparaître par ailleurs. Et le deuxième argument que je tire de cela, et qui a un rapport avec l'oralité des textes juridiques, c'est que ça ne doit pas être non plus une marque d'oralité, puisque par ailleurs on a la marque d'oralité par le « et ». Si c'était une marque d'oralité, il aurait fallu qu'on le voit une fois de plus illustré dans ces textes. Voilà pour les complétives. Alors, en complémentation, puisque qui dit complétive dit discours direct, voici la phrase que tout à l'heure montrait Mathieu. Elle commence là. Voilà, là j'ai fait une faute de frappe, je vous prie de m'excuser. Voilà la transcription. « Si le plaît ému de la coutume et celui qui est retenu dit », alors voilà le point dont parlait Mathieu tout à l'heure, dit « je fus pris en ma coutume, le lieu doit être vu », etc., etc. C'est-à-dire qu'on a une façon très particulière d'introduire le discours direct. Il arrive de manière très abrupte, puisqu'on a « si le plaît ému de la coutume et celui qui est arrêté dit », le lieu doit être vu, c'est comme ça qu'on doit le lire, et après bien sûr la phrase en exergue là-bas du discours direct. Alors, un autre sujet sur lequel j'ai, je le répète encore une fois, commencé à travailler grâce à Pierre, qui m'avait proposé de faire une étude sur le sujet non exprimé. Je m'arrête. Voilà, j'ai presque fini. Le sujet non exprimé. Alors, très vite, voilà un texte littéraire. Alors, avec ce symbole-là, je note les sujets non exprimés. Et si vous les comptez, bon, certains sont en gras, d'autres sont sans le gras, mais tous sont en italique parce qu'il y a deux protagonistes, Galeo et Lancelot. Si on compte, si vous prenez le temps de compter, mais je vais le faire pour vous, il y a 12 sujets exprimés et 10 sujets non exprimés. Donc, une très forte propension de sujets non exprimés, à tel point qu'à un moment donné, mais on est là déjà à la période de Ronsard, c'est-à-dire en préclassique, il écrit cette phrase dans l'abrégé de l'art poétique, « Tu n'oublieras jamais les articles et tiendras pour certains que rien ne peut tant défigurer un vers que les articles délaissés, etc. Autant est-il des pronoms primitifs, les pronoms primitifs c'est « je tue il », comme « je tue », etc., etc. » Alors, pour ce que l'on sait de ce sujet non exprimé, on dit qu'il ne concerne pas toutes les personnes, ce qui est vrai. Le plus souvent, il concerne la troisième personne, qui serait plus fréquent en principal qu'en subordonné, sauf que Richard Ingham et Claude Buridan ont trouvé aussi le contraire. Voilà un sujet non exprimé dans la phrase de Villardouin. Qu'il ne concerne pas un temps particulier et que, donc, un premier texte que Pierre a produit avec Laurent Ballon, qu'il n'existe pas dans les textes juridiques, effectivement. Nous avons trouvé très peu de sujets non exprimés dans les textes juridiques sur lesquels nous avions travaillé avant, et qu'il est exprimé, il est non exprimé, mais il y a toujours un cas de co-référence, il y a une coordination, il y a éventuellement juste la reprise du sujet qui fait qu'on le repère très facilement. Avec tout ça, les explications morphologiques, vous le verrez après puisque je vais laisser la présentation, facteurs morphologiques, syntaxiques, discursifs, etc., etc. Alors, Ce que j'ai trouvé comme sujet non exprimé confirme ce que nous avions trouvé dans les études antérieures, à savoir il est non exprimé dans les cas de coordination, comme dans la première phrase. Donc là, vous avez une coordination par « ou ». Et puis, il n'est pas exprimé dans les cas de marquage discursif. Il apparaît dans ces textes-là en particulier dans une construction qui est une conditionnelle avec un subjonctif qui est un subjonctif injonctif. Si le père tue son fils par mésaventure, il faut qu'il fasse sa pénitence. Sauf que l'agencement médiéval est qu'on se sert de ce subjonctif. Vous n'avez pas de joncteur, vous n'avez pas d'expression de la subordination avec un joncteur et vous avez directement le subjonctif qui a vraiment une valeur particulière dans ces phrases. Tous les exemples le confirment. Alors, pour le sujet impersonnel, il est très souvent lui aussi exprimé. Le sujet impersonnel, qui pourtant n'est pas référentiel, donc qui amène une preuve supplémentaire par rapport à l'utilisation du sujet, et encore a-t-il été établi, et ici, il, après le pied de mouche, il ne louise pas une femme veuve, etc., etc. J'ai trouvé dans tout le manuscrit 1743, trois cas de sujet impersonnel non exprimé. Je vous en donne deux ici. Un cas dans les instructions et enseignements. Voilà. Alors, autre remarque, mais très rapidement. Ça, c'était une présentation que je voulais faire rapidement sur l'usage de la déclinaison. On a une déclinaison en ancien français. Les étudiants, je ne sais pas si vous avez fait des études de diachronie, voilà, qui se résume dans le fait que quand on a un sujet, il doit être marqué. Il doit être pourvu d'une marque de flexion qui est celle du cas-sujet. Sauf que ce qu'oublie de dire les manuels, enfin, je critique peut-être un peu trop les manuels, tout en sachant qu'on a terriblement besoin de manuels et que ce n'est pas mon propos de les critiquer sous la forme négationniste totale, c'est qu'on a quand même des cas de figure qui ne sont pas développés, mais ce n'est pas non plus le but d'un manuel, vous me direz, à savoir qu'on peut avoir ce que j'appelle des syntagmes mixtes, ou lorsque vous avez un seul élément qui est décliné et pas l'autre, ou alors carrément des syntagmes qui actuellement sont tout à fait normaux, mais qui à l'époque pourraient être considérés de syntagmes fautifs. Même chose pour le singulier et le pluriel. Alors, la déclinaison est, je dirais, respectée dans le plus ancien manuscrit, c'est-à-dire celui sur lequel a travaillé après Marnier. Vous le voyez ici, le mot orphelin est décliné. Et là, le mot juré est décliné également, c'est un pluriel. Mais on peut avoir quelques cas de faute inverse aussi, c'est-à-dire d'usage. Là, on s'attendrait à soror, et là, éventuellement, on s'attendrait à oir sans le s si c'était un sujet pluriel. Dans le Harvard, déjà, on commence à voir une déclinaison qui vacille, puisqu'on a ici un démonstratif qui est décliné, s'il, dans le premier cas, et qui, à la ligne suivante, ou juste au paragraphe suivant, après le pied de mouche, devient celui qui. Et ici, on a un syntagme hyper correct, etc., etc., pour dire qu'après, cette hésitation se poursuit dans le manuscrit d'ici, local, le 28. Et même chose dans le manuscrit de la Bibliothèque de France. Alors, même chose pour un autre phénomène qui est lié à l'usage de la déclinaison et qui relève de la hiérarchisation des syntagmes nominaux, une structure que l'on appelle dans les manuels des cas-sujets absolus, que l'on appellerait d'un point de vue purement linguistique l'association N1-N2, la partie son mari, pour dire la partie de son mari, mais on trouve également la coutume du pays, et puis on trouve le serment à, dit Léo Homme, la saisine de l'héritage, là-bas au bon, je ne me sers pas comme je devrais de ma télécommande, je vous prie de m'excuser. Donc bref, je finis. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve des aides de relance, ce qui me permet de dire qu'effectivement, ce sont des textes qui sont loin des contraintes qu'ils ont de nos jours. On trouve que, qui est exclusif dans les complétives, au détriment de ce que. on trouve des valeurs extrêmement faibles de sujets non exprimés, qu'ils soient personnels ou impersonnels, et que les formes déclinées se maintiennent, mais pas avec grande régularité, jusqu'au XVe siècle. Mais dans le manuscrit du XVe siècle, on ne voit aucune trace de déclinaison. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et voilà une bibliographie très succincte.